Tiens, y a les Chéquers, Saint-Paletot, de vin de biseau de pleuf et puis de fraudure.
Rencontre.
C'est un nipé d'un rabillure, soleil luisant, douce et fin bio.
Avec Jean-Claude Van Fleuteren.
Tout le monde.
Alias Jules Ramon.
Chez Biette et chez Josio, quant à Nobat, bral d'un sparlure.
Ancien professeur de français, amoureux des mots de poésie, homme de théâtre avec la troupe La Colombine, Les Rosati dans La Rajoie et ailleurs, Jean-Claude Van Fleuteren est aussi un grand passionné de langue picarde, langue dans laquelle il écrit depuis les années 1970.
Bon, déjà, évidemment, je suis d'un milieu social ou effectivement populaire de la région de Lille. Donc j'ai entendu parler le picard plus ou moins à la maison, surtout ma mère. Mon père nous l'interdisait, bien entendu, parce qu'il fallait échapper un peu à son milieu, à ce que j'ai revécu des années plus tard avec des enfants. Hein. Les parents étaient quelquefois réticents parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mélanger le français et le picard, surtout dans certains milieux. Moi, ici, dans la région de Saint-Nicolas, où, au contraire, là, j'étais très soutenu. Donc j'ai commencé par connaître un picard important qui s'appelait Simons. Et enfant, j'allais au théâtre Sébasto voir les pièces de Simons et de Line d'Ariel. Donc c'est à travers Simons que j'ai commencé à prendre conscience de l'intérêt de cette langue. Puis voilà, ensuite, ça a continué avec d'autres poètes, et en particulier Jules Mousseron, qui sont très accessibles parce qu'il y a un mélange, bien sûr, d'un peu de français et de picard. Hein. C'est le cas pour beaucoup d'auteurs qui se produisent en spectacle. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait mes études comme tout le monde. J'ai un peu oublié tout ça. Et puis, un beau jour, en contact avec des jeunes, des élèves, en particulier à Frévent, où effectivement, dans ce milieu rural, il y avait pas mal de gens qui parlaient le picard. Il y avait en particulier un journal, La Baie de la Ternoise, qui produisait Parlot, une rubrique régulière. Voilà, donc j'ai eu cette idée de reprendre ça à mon retour de Dunkerque, puisque j'étais nommé dans la région de Dunkerque, et là on ne parlait pas le picard, mais je suis tombé dans cette région où on le parlait, et on a commencé à faire des premiers spectacles en picard.
Alors Jean-Claude, vous allez nous lire quoi alors? Qu'est-ce que vous nous proposez?
Je ne sais pas. j'ai du Brassens. Là, j'ai de La Fontaine. Là, j'ai du Charles d'Orléans. Là, j'ai la Bible. J'ai Antoine de Baïf. Verlaine, tiens, pourquoi pas. Hein? Allez, c'est parti pour Verlaine. Je suis venu tous ceux, pas finochin, deux une mouchon, le cœur d'un fouroule. J'ai dit bonjour, me v'là mes gens. M'a répondu, foulcan, nigdoul. Puis à 20 ans, pour le garlouzette, je grimpe au hamur et je donne nos sauts. Pour elle, j'ai revu des musettes. M'a dit, va-t'en, dit tes pombios. Maugré qu'est-ce sauce point à la drale, je rêvais d'être un coup et de combat, que je meurche un sang dans un batal. Et le mort m'a dit, co que je frotte chat. Bouchin des yurs, ou ben je culot, qu'on a muché dans un placard, paillé pour mi, j'ai gramin de mots, paillé mes gens, pouche-tu Gaspard. Voilà, c'était Gaspard Hauser, chante de Paul Verlaine.
Alors, picard, ch'ti, patois, de quoi parle-t-on en fait?
En fait, on parle de la même chose. Simplement que certains termes sont considérés comme péjoratifs, comme le mot patois. Que ch'ti, est plus spécifiquement réservé à la région Nord-Pas-de-Calais, mais c'est une autre forme, une autre façon de parler de la langue picarde. Bon, il y a toujours une petite difficulté, bien sûr, quand on est ici sur Arras, de dire « je parle la langue picarde ». On préfère dire le ch'ti, parce qu'il y a toujours eu cette opposition quand même entre les deux régions, qui est une position historique. Hein. Depuis toujours, il y a eu comme une sorte de rivalité entre la Picardie administrative et puis les gens de l'Artois. Donc voilà, donc il y a toujours une petite réticence, mais en fait c'est la même chose. Bon, puis qu'importe le terme qu'on emploie, le fond est toujours le même, on sait bien maintenant quand même que c'est bien une langue.
Alors vous avez parlé un petit peu du fait que cette langue était un peu réprimée. Là, vous avez parlé de votre rapport avec votre père. L'école aussi empêchait les gens de parler picard. Vous avez été prof, comment vous avez vu ça, vous, hein?
Ah ben, j'ai pensé que le Picard, au contraire, surtout dans les zones où je travaillais, c'était un bel outil, au contraire. C'était une façon d'approcher la langue française, plutôt que d'éviter les mots, au contraire, il fallait les utiliser. Donc j'ai toujours pensé que c'était absolument utile de faire des références à ce que les enfants entendaient chez eux. Enfin, de moins en moins, bien sûr, mais je veux dire, il y en avait encore pas mal qui, dans les milieux ruraux, dont les parents parlaient le Picard. Donc, il fallait au contraire l'utiliser. Mon point de vue. Bon, c'était un peu timide au départ, puisqu'il n'y avait pas officiellement de reconnaissance de la langue Picard au niveau de l'éducation nationale, même si c'était reconnu aussi par le ministère de la Culture avant l'éducation nationale. Bon, c'était un peu timide. On pouvait, effectivement, c'était indiqué dans le bulletin officiel qu'on pouvait faire des références aux parlers régionaux. Hein. C'était Jacques Lang, je crois, qui avait institué ça. Donc, effectivement, je n'ai pas manqué de le faire. Et très vite, eh bien, j'ai fait du Picard avec les jeunes, de manière ludique. Hein. On ne peut pas forcément faire des cours de Picard, mais c'était... Je l'abordais par le théâtre, par la chanson, etc. Après, je peux dire une fable de La Fontaine, éventuellement.
Ouais.
Hein, ça vous dit, La Fontaine?
Ouais.
Allez, on va essayer d'en trouver. Garnoul, qu'elle voulait être aussi grosse qu'un bœuf. Un jaune Garnoul, cachant moucron, patoco d'Alberdoul, aussi triste qu'un étron. Mais Vlotiponc débuc avec ses gros chabots, un bœuf tout blanc avec Saint-Vinte comme un tonio. Vadjou, à peine est-ce bouc d'alio qui beau d'un col mi-temps d'échelot. Que bio gaillant, que bio gambon, que fameuse biette. Nouran estomaqué l'y fait ses grains de mirette. Saintin vraiment éthique et devint chez mon de barbac. Elle décide d'un seul coup qu'il faudra qu'elle se déraque pour être grosse et de la sorte, et elle porterait craché d'une biette si bien arabisée. Vétier, vétier, qu'elle dit aux gens d'Esras, vous allez me vire quand j'ai, béto et je serai plus grasse. Et v'là à se gonfler, comme une vessie de pourchaud, espanche, estiette et saint-gazio. Nom des eaux, il faut que j'y seuche. Alors, chez Tipombin, pas un corps, attendez, je crois que je couchis, je le sens. Non, non, vous êtes pas plus grosse qu'un bétrache et de chez camp. Si fait, et je pousse un corps, par derrière et par devant, et le maboule, la fourchette gonflée, paf, elle finit par s'épautrer. Souvent, un grand cul n'a qu'un tio trop, et puis d'un stiète faut qu'un petit pot. Blâche qui arrive à tous ceux qui vont être vins chez Jean pour faire croire qu'ils sont toutes sortes, quand ils ne sont pas gramins. Dans le calcio Belmout, ils sont tout dits chez Varlet. Même si grimpe assez tôt et le cul a l'air pour péter. Souvent, ils arquettent sur tiers, se cassant un abatti, finissant leur carrière complètement aplati.
Comment vous expliquez le fait que d'autres régions, les langues régionales ont été soutenues, défendues? Ici, dans la région, c'est arrivé un peu tardivement. Comment vous expliquez ça, en fait?
Bon, déjà, quand on parle des langues qui ont été soutenues, on parle du Corse, on parle de les pays du Sud, le Breton, la Catalogne, le Catalan. Donc, hein, voilà, ces langues étaient effectivement déjà très, très bien soutenues. Quand il s'agit du Catalan, par exemple, c'était soutenu parce que tout simplement, il y avait une action... Il y avait la télévision, la radio déjà en Espagne, et donc effectivement, le fait d'être à la frontière, ça a aidé beaucoup. Bon, le breton, effectivement, c'est des régions qui en même temps revendiquaient une certaine autonomie, donc tout ça pouvait fonctionner ensemble. La langue, c'était très important, la Corse, c'est la même chose. Bon, nous, on a été très vite traversés par les guerres, pour des raisons économiques, avec l'arrivée de gens devenus d'un peu partout, de Pologne, du Maghreb, etc. Donc c'était pas mal de bouleversements, puis les grandes guerres, bien entendu, on était traversés par tout ça. Donc tout ça, c'était un petit peu éparpillé et oublié, Mais on n'a pas pu, on n'a pas eu, on n'a pas su conserver en fait aussi notre folklore. Ça, c'est important. Je veux dire parce qu'effectivement, on est traversé par des gens venus de tous les horizons. Les Bretons ont conservé déjà ne serait-ce que les danses que, et les costumes, voilà, tout ça, c'est un ensemble. Hein, je veux dire, nous, on n'a pas eu cette possibilité-là. Hein. Et puis, surtout, région frontière aussi, bouleversement politique, économique, etc. Ce qui explique qu'on n'a pas vraiment réussi à soutenir cette langue. On a perdu beaucoup. Alors aujourd'hui, on essaye de rattraper le retard. Mais est-ce qu'il est encore temps ? C'était un point d'interrogation quand même, malgré tout.
Est-ce qu'à cette langue n'est pas aussi attaché un caractère un peu négatif ? Voilà, on se moque facilement des gens qui ont un accent, qui pratiquent cette langue. Cette langue est vue aussi comme un peu rigolote, mais pas vraiment sérieuse ?
Oui, bon, ça a toujours été. Hein, je veux dire, le fait de se moquer déjà de notre accent. Hein, on a considéré qu'effectivement, c'était un accent venu du milieu populaire, du milieu rural. Donc voilà, on s'en est beaucoup moqué. Du reste, notre poète Verlaine, lui, au contraire, l'a défendu, cet accent, hein, en expliquant qu'il n'y avait pas de raison de défendre davantage et de considérer qu'il était plus poétique l'accent du Sud. Et qu'au contraire, notre accent, effectivement, s'il était considéré comme lourd par les journaux réactionnaires de l'époque, en particulier le journal Le Temps, considérait qu'effectivement l'accent pouvait être considéré comme lourd, mais tout simplement parce qu'il était à l'image du travail des gens de la ruralité, le travail de la terre, le travail de l'argile, etc. Donc il défendait cet accent. Après, effectivement, comme c'était considéré par la bourgeoisie au XIXe siècle comme une sorte de moment d'amusement, y compris par les Rosati du reste, hein, on acceptait de dire des textes en patois, mais c'est simplement pour, en fin de soirée, pour rire un peu. Hein, ça n'a jamais été considéré comme quelque chose de sérieux qui pouvait effectivement transmettre des sentiments de tendresse, etc. Verlaine l'a rappelé, je reste ça, que effectivement, ça dans une conférence en particulier, il a cité deux poètes justement qui étaient capables d'exprimer cette tendresse et des sentiments délicats, des Rousseau et Marceline Desbordes-Balmore par exemple. Hein. Mais là, dans l'ensemble des spectacles qu'on donnait, il fallait absolument que ce soit rigolo, que ce soit quelquefois vulgaire, ouais, faut le dire. Hein. Et donc on a pensé que par conséquent la langue était effectivement vulgaire, tout simplement parce qu'on n'entendait que cet aspect dans les créations. Hein. Et ça c'est fort dommage. Hein. Donc on est revenu bien sûr là-dessus maintenant, on a compris que c'était une langue comme une autre, donc il y avait à la fois du rigolo, il fallait pas le laisser de côté, bien entendu, mais aussi on pouvait exprimer des choses plus délicates. Quand le jour et de gloire y est arrivé, vu que tous les autres étaient qu'hervés, mis tous ceux j'ai eu déshonneur, pour définquer, suis-je qu'en d'honneur, et je suis de ma oisière, mes bonnes gens, je n'ai pas mis qu'un morfiel, pont avec mi qu'un fémoyette, m'aura foqué, elles autres, mes bonnes gens, mais elle m'a léché là, je n'ai pas juste méché comme chat. La 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 la. Et puis je me demande pour qu'au bon Dieu, que j'avoue boustique et je vis vanzique. Et puis je me demande pour qu'au bon Dieu, que j'avoue boustique et je vis vanzique. Fil pour terre tous, gauche comme le bure, elle me donne ami, tout à l'urlure, des bucs d'espio bien camuchés, les otinos pont patriqué. Et chute de mauvaise hierpe, mes bonnes gens, je n'ai pas mis qu'on morfiel point avec mi qu'un fémoyette, elle vint se magrite aux autres, mes bonnes gens, et l'ouarde 5 heures pour mi, je n'ai pas juste, mais j'étais ainsi. La 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 la, et puis je me demande pour qu'au bon Dieu, qu'avou boustique, qu'un même enzik, et puis je me demande pour qu'au bon Dieu, qu'avou boustique, qu'un même enzik. Chez hommes tot faits, ashkanadi, pour vivre ensemble, comme des berbis. Mais je vis tous ceux, et je n'ai pas de main, que je vais les suivre sur les drogues mains. Chut, de ma oisière, mes bonnes gens, je n'ai pas mis qu'un morfiel, pont avec mi qu'un fait moyette, et chut, de mauvaise hierbe, mes bonnes gens, et je pousse lip, et je m'intique d'un chez gardin pont catholique. La 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 la, et puis je me demande pourquoi bon Dieu, que j'avoue boustique, et je lui fais un zic, et puis je me demande pourquoi bon Dieu, et j'avoue boustique, et je lui fais un zic. Voilà. Ça fait un peu tout à fait germanique. Et Chavoubustik, Juif, Anzik. Et c'est vrai que c'est un peu ces consonances-là qui nous distinguent un peu des autres langues d'Oïl. C'est que il y a eu toujours un mélange, évidemment, de gallo-romain, mais aussi une influence germanique importante qui a duré un peu plus longtemps chez nous, puisque les Francs sont arrivés du Nord et donc sont restés un peu plus longtemps chez nous. D'où cette influence plus importante et ces sons un peu durs, les queues, qui sont différents des cheux qu'on verra plus au sud. Voilà.
Est-ce que, selon vous, c'est encore une langue vivante ? Est-ce qu'il y a des gens, des auteurs, des écrivains, des poètes qui la font vivre encore ?
Oui, effectivement, il y a de moins en moins de locuteurs, encore que dans le Nord-Pas-de-Calais, ils étaient nombreux. Et paradoxalement, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui l'écrivent, soit des contes, soit des pièces de théâtre, soit des chansons, etc. Donc il y a de plus en plus de productions, de plus en plus de livres pour essayer de redécouvrir cette langue. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Il y a par exemple des bandes dessinées, ça c'est intéressant pour les enfants, des traductions de bandes dessinées en picard. Il y a des livres qui commencent à sortir, plus orientés vers l'éducation. Donc voilà, c'est à voir. Après, c'est vrai qu'il y a eu toute une renaissance quand même très nette au niveau de la production. Il y a de plus en plus d'écrivains. Je vois par exemple pour le concours de littérature en langue régionale, il y a 70 participants par exemple. Bon, on peut compter autour de 400 écrivains là actuellement qui écrivent en picard.
Aujourd'hui, il y a quand même, on est un peu un tournant parce que bon, cette langue est moins pratiquée dans les foyers. Mais il y a aussi une prise de conscience politique du devoir de transmission. Il y a des écoles maintenant qui donnent des cours de picard, de langue picarde. Comment vous voyez un petit peu tous ces efforts et est-ce que vous avez pu avoir un regard sur cette transmission ?
Ah bon, évidemment, c'est très positif. Ça, on l'attendait depuis longtemps, la reconnaissance de notre langue. Donc, la possibilité de l'enseigner, possibilité, par exemple, d'avoir des villages avec les panneaux indicateurs dans les deux langues, le français et le picard, tout ça, ça se permet de le prendre au sérieux. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'il faut essayer de trouver un langage qui soit standard, comme cette langue a été effectivement malmenée, eh bien, on a eu du mal à créer une certaine unité. Donc il faut travailler déjà sur les outils, ce qui est fait par l'agence régionale. Déjà, on produit déjà des dictionnaires, des grammaires, etc., pour montrer qu'effectivement, il y a des formes réglementaires, comme dans toute langue. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est de trouver les enseignants. Et là, ça veut dire qu'effectivement, il faut de nouveau recréer des chaires de picard dans les universités pour qu'ensuite on forme des enseignants pour pouvoir enseigner la langue sérieusement. Et ça, c'est pas joué. Et on peut se demander s'il était encore temps, quoi. Puisqu'en fait, la langue n'a plus été transmise depuis très longtemps. C'est plus une langue transmise par la famille. Il n'y a plus que les associations qui pouvaient la transmettre. Et c'est pas un travail suffisant, bien sûr, pour sauver une langue. D'où l'importance, effectivement, de sa reconnaissance par l'éducation nationale. Mais encore faut-il que derrière, les moyens arrivent. Mais ça, je me pose la question quand même. Est-ce que c'est une priorité aux gens dans la tête de ceux qui nous gouvernent? Je ne sais pas. Alors ça, c'est une balade en fait, hein, parce qu'à chaque fois, il y a des rimes qui sont respectées là, par contre, hein, et un refrain qui revient. Et puis bon, c'est un texte que j'écris à une certaine époque, parce que je crois que c'était du temps de Giscard d'Estaing, donc c'est vieux ça, hein, où déjà on se plaignait de tas de choses en fait, qu'on va retrouver aujourd'hui, hein, le changement climatique, la tristesse de notre Terre, de notre planète, et puis aussi l'ouvrier qui est toujours qui cache après ce quinzaine, hein, bon, qui n'est pas content. Et puis nous, dans notre tête, ça va pas non plus après tout ce qu'on a vécu comme mauvais moment avec la Covid, etc., etc. Donc je pense que voilà, c'est une ambiance un peu de qu'on a peut-être oublié, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, en fait. Voilà. Et le soleil d'un lio fait des graines, y a mis Capote et Saint Goriot. C'est le net noir de Saint-Capiot de laine, y a plus de carbon dans Saint-Fourniaud. Saint-Blanc-Bonnet, Torres Lavette, Saint-Moucaud de Poche, Intercédin, chez Tiotte Planète, Ibrette, chez Le Redbrer, chez le Saint-Gringrin. Le ministre a sous, comme un de grosse glaine, pas encore les miettes au Tchopierro. L'ouvrier cache après ce quinzaine, et se femme l'y fait le soupe à Navio. Et le riche y trône dans ses liquettes, l'y a les troules devient qu'un chemin, si qu'à des chriches racle les pirettes. Chez le Redbrer, chez le Saint-Gringrin. Mis j'ai ma cœur comme une baleine et je traîne d'un petit tapis d'écho. J'attends chiffler le train d'un poitraine, y a plus de bon sein, tout cœur un veau. Je ne beau même plus ma jus de cochette, foque du vinaigre comme un flamin, et suis plus triste qu'un écumette. Chez le Redbrer, chez le Saint-Gringrin. Julie, je voudrais ta l'coyette, pourquoi que t'as fait un quinquin? Ah, reviens. Joc, je veux dire arrête. Chez le Redbrer, chez le Saint-Gringrin. Voilà, c'est des saints qu'on a oubliés aujourd'hui. Hein. Il y a le Saint-Dodo, il y a le Saint-Panchard, il y a le Saint-Longin, cherché pour les Lambins, qui n'ont pas envie d'ouvrer. Et puis le Saint-Longin, le Saint-Gringrin, chez ceux qui brettent. Voilà. On a des raisons de brayer acheteur, hein, quand même. Voilà.
On était en compagnie de Jean-Claude Van Vleuteren du Théâtre de la Colombine et des Rosati. Texte en picard de Charles d'Orléans, Paul Verlaine, Jean de La Fontaine, Georges Brassens et Jean-Claude Van Vleuteren lui-même. On espère le retrouver à cette antenne pour de nouvelles aventures en langue picarde très bientôt.